vais partir du titre de la dernière séance du séminaire. J'ai trouvé comme titre Larvatus Prodeo. Dans la mesure où effectivement c'est quelque chose qui est venu durant la conférence. Et c'est bien sûr une autre lecture que j'ai essayé d'en faire la dernière fois, autre lecture que celle que pouvait penser Descartes dans cette note à son maître Beckmann, dans la mesure où l'important pour le travail d'élaboration que nous essayons de faire ensemble, que j'essaie de vous transmettre, l'important c'est le point de rencontre que peut permettre de supposer l'expérience de la psychanalyse en tant que celle d'un discours, je ne reviens pas, j'en ai déjà suffisamment parlé, en tant que celle d'un discours, c'est-à-dire de ce qui fait lien social, au sens où Lacan en parle, c'est pas le lien social habituel, c'est ce lien particulier qui résulte chez tout être parlant, dans ce qu'il essaie de bafouiller, du fait qu'il y a quelque chose qui est imprimé, qui est le langage. Donc, le point de rencontre entre cette expérience et celle du chant lyrique, je vais préciser un peu les choses, à savoir que durant cette expérience du chant lyrique, qui m'a découvert, qui m'a mis à découvert il y a trois ans et demi, il est apparu quelque chose qui a été un voile qui a disparu, bien sûr, par suite d'un travail à qui je dois rendre hommage. Là, je vais le faire aujourd'hui, c'est Roger Yaesch, qui enseigne, qui transmet l'importance de la méthode traditionnelle italienne. Nous travaillons deux fois par semaine là où il habite, c'est-à-dire à Caen, et durant un temps relativement conséquent, puisque chaque fois il y a un peu plus de deux heures de travail. Et à partir de ce qu'il transmet, bien sûr, d'une part, une richesse harmonique est apparue et continue d'apparaître. Et si vous allez sur la page d'accueil de son écrit, vous verrez qu'il en a résulté des effets. D'ailleurs, vous devez l'entendre maintenant que je parle, dans la mesure où cette voix timbrée dont je parlais est plus timbrée. Je sens beaucoup plus à présent la projection du son sur la partie tout à fait antérieure du palais et le fait que le son ainsi, se réfléchissant à cette partie juste derrière les incisives, bien sûr tout ceci se fait grâce à une technique respiratoire aussi importante, diaphragmatique, il en résulte que la voix, les harmoniques de la voix se développant constituent une arborescence harmonique beaucoup plus nourrie, beaucoup plus ronde, beaucoup plus éclatante, et que la première page de qu'actuellement, je pense que ce sera, on ne sait pas, mais enfin vraisemblablement la qualification, je dirais, de plus en plus précise. Donc actuellement, je dirais ma voix, mais sans trop savoir ce que c'est, ma voix rentre dans la catégorie des ténor Lyricos Pinto, comme par exemple actuellement peut l'être encore Placido Domingo, encore que lui-même vraisemblablement, puisqu'il va bientôt chanter Simon Boccanegra, donc un rôle de baryton, encore que donc lui puisse penser actuellement que peut-être il n'a plus tout à fait le brillant. Enfin, il suffit d'écouter les opéras qu'il a chantés, il en a chanté beaucoup, il y a déjà plusieurs années, pour se rendre compte de la différence entre les harmoniques, la voix timbrée, le timbre, au niveau des i, et ceux que l'on peut entendre de la part des autres chanteurs. Bon, ceci est important parce que je ne sais pas comment, mais c'est sûr que ça intervient, pour autant que non seulement se joue quelque chose là, mais justement se jouit quelque chose là. Donc voilà, d'un côté, le fait d'être beaucoup plus sensible au timbre des harmoniques. Et je fais un saut, là, bien sûr, un saut qui est le fait d'entendre, quand quelqu'un parle, quelque chose d'insaisissable. Parce que ce timbre aussi, même si on peut l'entendre, c'est pas quelque chose qu'on peut finalement saisir. On ne sait pas bien ce qu'il transmet, mais il transmet quelque chose. D'autant plus que si la technique vocale n'est pas suffisamment appliquée, je pense que le mot appliqué ne va pas, n'est pas suffisamment, on pourrait dire incorporé, mais c'est aussi, c'est peut-être aussi quelque chose qui ne va pas. Je dirais d'autant plus que si on n'est pas habité par quelque chose de cette technique qui se transmet, depuis des lustres, de maître à élève, au un par un, eh bien, assez rapidement, je ne sais pas, je ne suis pas là pour porter un jugement, mais enfin, c'est une constatation. La voix dans les aigus devient blanche. C'est une vraie question. Quel rapport il y a entre cette évolution et le discours scientifique qui entoure la production artistique, notamment celle de la voix? C'est ça la vraie question. C'est une question que je pose. Je prendrai ça plus tard. Et de la même façon, on peut poser la même question. Quel rapport y a-t-il entre le devenir de la psychanalyse et ce qu'a pu essayer de transmettre Lacan, lui-même lecteur de Freud, bien sûr prenant dans Freud quelque chose, hein, pas n'importe quoi, répondant, comme il le dit, par cette invention qu'elle réelle, à l'élugubration freudienne, c'est-à-dire aux énoncés de Freud, et en quelque sorte, entendant le réel dans la voix de Freud. Et vous voyez que la voix, c'est pas le bruit qui se passe entre deux personnes qui se connaissent. C'est autre chose, là, qui est en jeu. Ce qui m'a donc conduit à ce début d'année, à titre de vœu, à mettre un mot sur l'annonce de ce séminaire, mot qui est celui de la rencontre dont je parle. À savoir que ce que montre le discours analytique, j'insiste bien, le discours analytique, c'est pas la psychanalyse comme ça, comme on peut la divulguer, hein. C'est une expérience, le discours analytique, entre quelqu'un qui parle et quelqu'un qui essaie d'entendre quelque chose au-delà du dit. Puisque l'enjeu, c'est le réel de l'inconscient. C'est ça la difficulté, toute la difficulté, mais aussi tout l'intérêt de toucher à ça, à cet insaisissable. Or, ça, et là je vous renvoie à Lacan, le séminaire encore, notamment. Or, notamment à Lacan, essayant d'articuler une rencontre entre Aristote et Freud dans ce séminaire encore. Et bien sûr, on voit bien que ce n'est pas une rencontre. Là, évidemment, ça saute aux yeux, c'est clair. Entre deux personnages qui se sont connus, la dernière fois, je commençais en disant que ce que j'essaie de proposer par ce séminaire, c'est la réalisation, comme ça, instantanée d'un tableau, de quelque chose qui, d'une image composite qui met en jeu effectivement le dire de quelqu'un, plus exactement le dire de quelqu'un entendu par un autre et entendu à nouveau par un autre. Toute la question de ce qui se transmet. Eh bien, je dirais que l'important dans cette rencontre, c'est que si maintenant, alors que je parle, ce qui est attendu, que vous le sachiez ou pas, c'est le fait que vous entendiez quoi ? Mais quelque chose qui vient moduler, quelque chose qui est le réel. Est-ce qu'il est possible que ça soit entendu ? Pourquoi le réel ? Parce que le réel, c'est ce qu'on ne peut pas saisir, c'est la dimension de l'absolu. Pourquoi c'est important ? Parce que ce que l'expérience du discours analytique peut transmettre, c'est que c'est ça qui est à l'origine de la psychanalyse. C'est ça que découvre Freud. Il ne le dit pas. C'est dans son dire. C'est ça qu'il a entendu. C'est ça qu'il a sans doute mordu dans sa rencontre avec l'hystérique femme. C'est-à-dire que la dimension de la femme que je propose d'écrire avec une barre pour montrer que ça dépasse justement le signifié qu'on peut appeler la femme, ça renvoie à la dimension du signifiant. Hein ? Je renvoie à la barre saussurienne, de la linguistique, mais pas forcément pour en faire l'usage, je dirais, linguistique des choses. Au niveau du langage, dont je parlais tout à l'heure, l'importance du langage, parce que c'est ça, c'est ça que découvre l'histoire analytique, c'est que l'homme, à partir du langage, à partir de cette habitation qu'est le langage, à partir de là, bien sûr, toutes les catégorisations habituelles de quoi ? De l'état civil ou des recommandations bien connues. Selon on est homme, on est femme, ceci étant basé sur quoi ? Ben sur ce qui est vu essentiellement. Sur une certaine façon déjà de sentir, de penser, c'est déjà important là. Mais en regard du langage, l'élaboration de Lacan, elle se situe vraiment là, celle de Freud aussi. Mais Freud, il va bafouiller avec cette question bien connue de que veut la femme, et non pas une femme. Donc, cette question du langage pose la question de la sexualité, du sexuel, qui est à l'origine de la psychanalyse, autrement, c'est-à-dire que ce que va poser d'emblée comme question hystérique que rencontre Freud, les femmes hystériques qu'il rencontre, est-ce que ne cesse de poser comme question, on va dire, hystérique, avec Lacan nous dirons le discours hystérique, c'est le fait que cet absolu dont je parlais, ce réel, c'est ça le ressort, c'est ça qui s'entend dans les propos de quelqu'un qui parle, c'est ça qui l'attend. Je dis elle parce que ça se propose comme ça à Freud, mais c'est tout à fait ça qui est en jeu, c'est-à-dire que ce qui apparaît évidemment, c'est que celui qu'on appelle l'homme est complètement perdu dans le réel du sexe. Évidemment, il ne faut pas le lui dire, ce serait un affront. Et que celle qui peut en dire quelque chose, c'est ça l'origine de la psychanalyse, c'est celle qui met au premier plan, évidemment sans le savoir, cet absolu du sexuel. On est loin de la différence de la situation sexuelle habituelle. Et qu'est-ce que c'est que l'absolu du sexuel? C'est Lacan qui va l'énoncer. Il n'y a pas de rapport sexuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes radicalement séparés de cet absolu que Lacan nomme grand A, autre, et qu'il barre, et à laquelle et auquel il ajoute dans cet écrit un grand S pour montrer que ça va avoir avec le signifiant, avec l'être de signifiance et non pas l'être sexué, à avoir avec la signifiance, c'est-à-dire que l'homme et la femme dans le langage chez celui qui parle ne sont que des signifiants, et c'est ça qui est attendu et entendu de la part de l'hystérique. C'est ça qu'elle met, on pourrait dire, comme question. Et ceci, vous voyez que ça dépasse nettement ce qui a été défini souvent par elle, à savoir que ce qui l'intéressait, c'est l'insatisfaction du désir de l'autre. C'est une question. Alors, C'est absolu, c'est l'absolu de la jouissance. Ce qui m'a fait écrire, il y aurait, pas une faute, il y aurait faute à un certain mode du jouir, à une certaine jouissance. C'est ça là, le renouvellement du savoir que peut apporter la sexualité, que peut apporter, je fais un lapsus, que peut apporter la sexualité, oui, chez le psychanalyste. Dans le cadre du discours, sinon on répète toujours les mêmes trucs, hein. C'est le blabla. Et du coup, ce quelque chose se différencie évidemment, radicalement, du savoir habituel sur la sexualité, tel que le discours courant. Discours courant qui finalement est issu de ce discours scientifique qui lui-même a engendré les petits, c'est le discours du maître, de l'être, M apostrophe, accent grave, TRE, qui fait que, bien sûr, ce qui est visé, c'est le développement, hein, c'est l'ontologie, c'était cette illusion de maîtrise. Quel développement? C'est-à-dire qu'il y en a un quelque part qui sait, et qu'on va savoir à son tour comment ça se passe, et que du coup, comme celui qui sait, qui est maître de l'univers, on va devenir à nouveau maître, M apostrophe, A-I-T-R-E, maître de l'univers. C'est la définition du moi, et du stade du miroir, et de l'image. Et dès que je parle, là, je suis en train de parler, finalement, je suis dans l'imaginaire. Il faut passer par là. Mais est-ce que vous entendez autre chose? Voilà. Et là, intervient cet au-delà de la description, du plan de ce que je dis, qui est ce que l'an dernier j'appelais hors d'eux, D-E-U-X ou D-apostrophe-U-X, ce hors d'eux qui est au-delà de la pensée. Est-ce que c'est pensable? Un petit peu, un peu, un peu. Peu s'en faut qu'on puisse en dire quelque chose. Parce que cette faute, c'est bien plutôt ça la question du péché originel dont on parle comme ça, dont on nous rabat les oreilles. Autre chose que la culpabilité, hein. C'est ça l'histoire d'Ève et de la pomme. Il ne sait pas qu'en faire, Adam, en fait, du féminin, qui est Ève. Et du coup, cet absolu, ce réel de la jouissance, enfin je le dis comme ça, ce réel de la jouissance, évidemment, il est d'emblée dans ce mythe. Dans ce mythe de la Genèse. D'emblée, d'ailleurs, finalement, dès qu'on ouvre la Genèse, en fait, c'est quoi la Genèse? C'est l'apparition du signifiant. Entendons-nous bien, qui représente un sujet pour un autre signifiant. On ne va pas faire dériver le signifiant sur l'effet de signifiant qu'est le signifié, quelle que soit la lecture qui en soit donnée, quelles que soient les références, par exemple théologiques, que l'on puisse apporter, que ce soit en référence au christianisme, oui, évidemment, hein, c'est facile, hein, au judaïsme, ah oui, ou à toutes les autres religions. Le signifiant, ça ne peut pas se saisir dans du sens. Le signifiant, j'insiste, ça s'entend. Et ça nous amène évidemment au chant lyrique. C'est-à-dire à la voix. À la voix. Parce que c'est ça l'enjeu. Hein? La voix, c'est-à-dire quelque chose qui est au-delà du sonore. Et qui est au cœur de cette rencontre. Et on pourrait me dire, par exemple, que quand la voix se met à être voilée, parce qu'on peut l'expliquer, ça, bien sûr, hein, y a quelque chose qui fait que les cordes vocales ne joignent plus bien. Un nodule ou autre chose, ou une faiblesse des cordes vocales. Hein, s'il y a trop de vibrato, par exemple. Voilà, tu vois, c'est ce qui peut arriver. Au bout d'un certain temps de carrière de chanteur, eh bien, quand la voix devient voilée, est-ce que ce ne serait pas une certaine vengeance du réel? C'est une vraie question, une question d'actualité en plus. Un retour comme ça, dans le réel de quelque chose. Alors, c'est pas facile ce que je dis là, parce que quand je parle du réel, c'est pas la réalité, hein. Ou alors il faudrait dire la réalité, ce que j'essaie de dire, la réalité de ce qui s'entend, hein, et bien ça s'approche à partir de l'appareil de la jouissance. Et qu'est-ce que l'appareil de la jouissance? C'est le langage. Il y a de quoi y perdre son latin. Bien sûr, surtout quand on en a acquis pas mal de latin. Au niveau d'études, au niveau d'un savoir, c'est tout à fait important de le connaître, ce savoir. Mais est-ce que il se suffit à lui-même? Est-ce que, par exemple, je reviens à Lacan, est-ce que quand Lacan lit Aristote, et qui donne, on va dire sa lecture, pas sa lecture, ce qu'il, c'est absolu là, particulier, et l'absolu qu'il tire de quoi? Du fait qu'on s'est tellement intéressé à Aristote que quand même, il y a bien quelque chose qui doit tracasser dans ce qu'il dit, dans les livres qu'on peut trouver, dans les nombreux commentaires. Et que ce qui est possible de déduire, c'est quoi? Il y a une jouissance. C'est-à-dire qu'il y a faute à une certaine jouissance. Il y a une jouissance, celle du réel de l'autre, qui, d'emblée, pose la question. Autrement, du féminin. Qu'on soit homme ou femme, c'est-à-dire sous la bannière homme ou femme, bien connue, l'important c'est le discours. Et là on retrouve le lien social et le langage. Et habituellement, nous sommes pris, nous sommes dans cette limitation qu'est le discours courant, le disque, comme dit Lacan, le disque qui court courant, et qui n'arrête pas de courir, toujours de la même façon. Alors là, avec la pensée qui va élaborer des choses peut-être de plus en plus complexes, mais c'est toujours la pensée. Et puis, il y a ce qui est au-delà de l'être du discours. Finalement, ce discours de la pensée, c'est celui de l'être, hein, du maître. Eh bien, ce discours qui est au-delà, c'est celui qui fait entendre le réel de la jouissance. Le réel de la jouissance. Quel intérêt ? Quel est l'intérêt ? C'est ça la question. Y a-t-il un intérêt à entendre ça ? Après tout, on peut se laisser envahir par la beauté de la voix, comme ça, là, hein ? ce qui nous ravit. Ah oui, ravissement. Ouais. On est ravi à quoi ? À la possibilité d'entendre ce réel de la jouissance. Ce n'est pas de la pensée dont je parle. Ce n'est pas de savoir, par exemple, si quand on écoute quelqu'un, c'est plutôt ça ou c'est plutôt ça. Non, ce n'est pas ça. Comme le dit Lévi-Strauss, moi, en opéra, je pars en voyage. Hein, regardez, écoutez, lire, c'est ça, le 93, tout de Lévi-Strauss. Pas, en vrai, je me fous pas mal du livret. C'est toujours les mêmes histoires. C'est-à-dire que les mots, on les utilise, bien sûr. On sait ça dans l'expérience analytique. Mais c'est la fonction d'usage. Hein? Très connu depuis les stoïciens, en passant par saint Augustin. Mais ce qui est important, c'est pas l'outil, hein, l'usage. C'est le fruit, la jouissance. Et dès maintenant, il n'y a pas besoin d'attendre la vie éternelle, comme disait Augustin, hein, ou le christianisme. Il n'y a pas besoin d'attendre. Est-ce qu'il est possible d'attendre quelque chose ? Que peut-on attendre du psychanalyste ? C'est un prochain colloque là, qui va bientôt avoir lieu, qui va nous réunir. Que peut-on attendre ? Que peut-on, on peut quand même pas ne pas l'entendre. Que peut-on entendre d'une psychanalyse aujourd'hui ? Ah oui, comme on l'entend aujourd'hui. Parce que cette technique italienne traditionnelle, hein, que mon ami Roger Eyesh transmet, ça part du signifiant, ça part de la voyelle. Et après, on va passer à la syllabe. La voyelle primordiale, celle du timbre, c'est le I. Le I. Après, on passera au A. Et après, aux autres voyelles. Et après, ça devient tout. C'est tout simple, après. Mais, cette dimension-là, du réel, cette question du timbre, qui fait que, par exemple, maintenant que je vous parle, si je prends un peu cette position-là, je vais essayer de la prendre, vous allez voir ce que... C'est-à-dire, si j'essaie de parler, comme je vais chanter, hein, je n'ai toujours pas mis l'enregistrement sur mon site, parce que parce qu'il ne faut peut-être pas trop brouiller les cartes, ça viendra. En enregistrement, je veux dire, au niveau du chant lyrique. Hein. Par exemple, je vais utiliser mon corps d'une certaine façon. Hein. Cette façon-là, la respiration. Et après, je vais me mettre à parler en ouvrant la bouche. C'est ça, chanter. Enfin, il veut ouvrir la bouche pour abaisser le larynx, pour que le son qui est formé au niveau des cordes vocales, bien sûr qu'il y a un certain son, mais ce n'est pas ça le son définitif, puisse à l'intérieur de la bouche et devant, juste derrière les incisives, être projeté pour partir. Ce qui fait que je n'entends pas grand-chose de ce que je chante. Ce que j'entends, c'est ce qui peut me revenir à la réflexion, mais c'est qui ? C'est le bon entendeur, c'est l'auditeur qui va entendre quelque chose. Je ne suis que l'interprète de quelque chose. Alors, si j'essaie, ça va donner à peu près ça, hein, si vous le voulez bien. Hein, je ne sais pas ce que ça va donner, on va essayer. Hein, ça donne à peu près ça. Oui, maintenant je parle et vous pouvez entendre justement quelque chose. Oui, c'est ça le timbre. Hein, j'ouvre la bouche. Et là, je suis en train de parler d'une certaine manière. Voilà l'instrument. Il faut que l'instrument arrive à être utilisé de telle façon que il fasse entendre cet absolu. Cet absolu qui est au cœur du transfert. Au cœur de la pratique vocale, chant lyrique. Alors, lorsqu'il peut être entendu par le biais de cet absolu, c'est quelque chose qui, à ce moment-là, va pouvoir, si on va en imaginariser quelque chose, présentifier la voix comme une sorte de tresse. Je pense bien sûr à la tresse dont parle Lacan, là. Chez l'être parlant, réel, symbolique, imaginaire. Comme une sorte de tresse de trois éléments. Et la façon dont ça va être tressé, c'est ça, je crois, qu'on apprend. Si quelqu'un peut nous aider à y accéder. Cette tresse, ce nouage particulier, singulier, propre à chacun, c'est singulier, hein, c'est-à-dire ce qui ne va pas tellement bien aller, peut-être parce que ça va réveiller. Préfère être endormi par le charme d'une voix, comme ça, surtout si elle est assez en arrière. Moi, maintenant, ça me révolte d'une certaine manière. Avant, j'aimais bien ça, avant d'avoir l'expérience du chant lyrique. Eh bien, l'enjeu de cet absolu, c'est de faire entendre ce quelque chose qui est l'énigme de cet autre absolu. On ne peut finalement cette jouissance de l'autre que grand A, hein, je me réfère, je suis désolé pour ceux qui ne connaissent pas bien ça, mais c'est comme ça que je peux avancer, en faisant référence à qui ? Eh bien, à ce que je peux entendre en écoutant certains chanteurs lyriques, je ne citerai pas de nom parce que je ne suis pas là pour ça, je dirais ceux qui transmettent ce réel-là, ce timbre-là, cette voix qui part en direction d'eux, qui reste dans la bouche, qui résonne dans la bouche au niveau de la voûte, la palatine, hein. Ça fait qu'on entend ça dans ses oreilles, c'est extraordinaire, hein. On pense qu'on chante bien, mais c'est parce qu'on entend. On en jouit. Mais c'est pas ça du tout. C'est comme la psychanalyse. C'est pas le psychanalyste, il n'est pas dans la position de jouir. Hein. Un saint, comme on l'a appelait. On aura une idée. Autrefois, dit Lacan. La jouissance m'accache pour lui. Je vous renvoie à la télévision. Eh bien, l'important dans cet enjeu, c'est quoi? C'est le fait que il soit possible, la dimension du possible, j'ai insisté, c'est-à-dire que quelque chose cesse de ne pas s'écrire. Ça, c'est la contingence. Alors qu'habituellement, ça ne cesse pas de s'écrire. On va dire ce plaisir, c'est pas la jouissance, c'est pas la faute, le défaut, ce qui dérange, ce qui réveille. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça l'important. C'est ça la dimension dramatique qui est dans la voix. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est pas un drame, justement. Justement, c'est ça. L'histoire, bien sûr, pourra développer que c'est un drame. Il pourra se passer des choses dramatiques. Mais la dimension du drame, elle est en fait dans le fait que, justement, le réel de la jouissance, c'est cette faute. Le drame, je dirais que c'est dans le fait que cette jouissance singulière, rapprochée du féminin, entre parenthèses, ça ne veut pas dire du tout que ce soit celle qu'on appelle les femmes habituellement qui puissent en parler beaucoup plus, d'ailleurs elles n'en parlent pas, hein. On ne va pas leur reprocher non plus. Hein. Cette jouissance donc qui permet d'être entendue du fait que chacun d'entre nous est radicalement divisé entre une part masculine et une part féminine. Hein, c'est-à-dire que, pour le résumer, comme le dit Lacan, l'être parlant n'est pas tout dans la fonction phallique. Pas tout, c'est la dimension du phallique. Il est, bien sûr, dans la fonction phallique. C'est la dimension du savoir masculin, du savoir du tout homme. Mais il n'est pas tout non plus. C'est l'énigme du féminin. Il en résulte ça que c'est pas rien, ça peut pas être pris en compte habituellement. Il y a faute, il y a défaut de cette jouissance là. Il en résulte que l'important, bien sûr, c'est que ce défaut, cette faute, mais c'est plus vraisemblable, c'est plus logique, c'est logique de l'autre, du langage, de dire, non pas qu'il y a eu une faute, là on glisse dans le signifié, dans l'effet de signifiant, c'est qu'il y a, il y aurait, on va laisser le conditionnel après tout, hein. Ben oui, il vaut mieux, parce qu'il y a une condition quand même, hein, c'est d'avoir rencontré, d'avoir été mordu, et puis d'être mordu par cette jouissance-là. Il y aurait faute à une certaine jouissance, défaut. Et il ne faut pas demander que ça se passe autrement, parce que l'être parlant, on est tous passés par là, on y est toujours. Il n'y a qu'une chose qu'on demande, qui est demandée, c'est que ce défaut, ce faux, soit complètement refoulé. Hein, cette jouissance-là, bien sûr, il ne faudrait pas. C'est justement celle qu'il ne faudrait pas. Mais simplement de dire ça, de mettre une négation, c'est une façon de la reconnaître. La jouissance qu'il faut est celle qu'il ne faut pas. C'est ça le faux de la faute. que je mettais là, en guise de vœu, c'est que peu s'en faut quand même. Il s'en faut de peu. Mais c'est pas rien. C'est la question du féminin, du patou, ce peu. Il s'en faut de peu que cette jouissance-là, celle-là, l'insaisissable, qui ne passe pas par le corps, comme le dit Lacan dans l'ouverture du séminaire encore, mais par ce qui résulte de la parole. C'est-à-dire que, ça, je dirais, il suffit d'être sensible à ça et de laisser parler quelqu'un qui se plaint parce que c'est insupportable ce qui lui arrive, pour qu'au bout d'un certain temps, cette jouissance là, celle dont on essaie de parler là, elle soit bien présente en quelque sorte, parce qu'il y a quelque chose de cet ordre, de l'ordre de cette jouissance justement qui est rendue présente. Je vais m'arrêter sur cette question-là, c'est toujours une question, je crois que c'est ça qui fait qu'on est mordu, enfin c'est, me semble-t-il, ce que je peux dire, tant par l'expérience de la parole, parce que c'est ça, la parole d'amour. C'est la référence à cette jouissance. C'est pas parler d'amour comme ça. Hein. C'est la référence à cette parole, la parole, mais pas le blablabla. Donc, cette jouissance, c'est la référence à ce qu'on peut appeler la parole, hein, ce que Lacan traite aux Romains, fonction et champ de la parole et du langage. C'est lié. Fonction de la parole dans le champ du langage. C'est de ça dont on parle. Ça, c'est 1953, hein, au moment où c'était si compliqué dans la communauté analytique en France. Hein. Eh bien, c'est ça, je vais m'arrêter là-dessus, qui est en jeu aussi, et c'est sans doute ça le nœud, le nouage, dans cette voie qui, d'où jaillit, d'où peut jaillir, soudainement, soit, souvent avec une certaine surprise, ce timbre particulier, notamment dans les aigus. Voilà, je vous remercie pour aujourd'hui. Alla te, Jolo.